C'est le tableau, c'est pour faire la pub. Les ateliers des cavaliers.
Vous y avez peut-être assisté, cet été se tenait la 29e édition du Festival culturel de Chaillol. Comme tous les ans, ce festival itinérant proposait évidemment des concerts, avec une programmation de qualité dont nous avions parlé sur nos ondes. En parallèle, d'autres moments musicaux étaient proposés. Dans ses pas de côté, Fréquence Mistral a pu assister à l'atelier d'initiation à la construction d'une flûte oblique proposée par Isabelle Courroy. Un intitulé intrigant, qui nous a permis, le temps d'une journée, et même un peu plus, de voir les choses de manière plus oblique. Commençons par écouter Isabelle Courroy pour comprendre ce dont on parle.
Qui dit flûte oblique, dit flûte d'abord, c'est-à-dire un aérophone, un instrument dans lequel on souffle, où le son est entretenu par le souffle. Dans le cas des flûtes obliques, on va souffler droit, c'est-à-dire le musicien ou la musicienne souffle en face d'il ou elle, de façon droite, mais tient la flûte en oblique, de façon à dégager, à faire un petit écart qui va permettre de mettre en vibration l'air sur un biseau qui va se trouver donc sur un angle. Et toute la question de l'oblique, c'est de combien à cet angle, de combien on s'écarte du droit, du souffler droit, pour que la flûte inclinée en oblique permette de fabriquer un son. La flûte oblique, ce serait comme une sarbacane, en fait. Il n'y a rien. Sauf qu'au lieu de souffler comme ça, on souffle de côté et on crée un biseau sur le côté.
C'est variété, parce que c'est un instrument qui est très archaïque dans sa fabrication, puisque c'est juste un tube, on va le voir. Mais après, il y a plein de subtilités du fait justement de sa simplicité.
Alors, c'est sur le biseau qu'on va effectivement faire briser l'air qui va provoquer la vibration du son. Ce mode de vibration permet, en fonction de l'écart de l'oblique, de vraiment construire le son de bout en bout. Donc, c'est tout la subtilité de l'angle. Quel est l'angle dans lequel on va placer cette flûte pour taper dans la cible du son?
Dans la simplicité, se greffe une multitude de possibles et qui fait que de simple, il est complexe. Sauf que dans les Balkans, on met la fenêtre vers le musicien, et le musicien, avec sa lèvre inférieure, vient salir, on pourrait dire, enrichir, je pourrais plutôt dire, le son d'harmonique pour faire une espèce d'amplification naturelle. J'ai pas besoin d'enceinte entre et.
Alors cette flûte oblique, tu l'as aussi appelée la flûte cavale d'ailleurs, si tu voudras nous dire quelques mots de ce terme en particulier. C'est un monde très vaste en fait, et il y en a une quantité incroyable.
Alors cavale, oui, c'est dans la famille des flûtes obliques, le cavale est très important. On le trouve dans toute la partie orientale de l'Europe et la partie occidentale de l'Asie. C'est une flûte de berger qui n'a pas quitté parce que les bergers le jouent toujours, mais le cavale est joué pas seulement par les bergers, mais par beaucoup de musiciens. C'est une flûte qui est très pratiquée encore dans les Balkans, qui a des lettres de noblesse vraiment dans des endroits comme la Bulgarie, l'Albanie, la Macédoine et la Turquie, puisque le mot cavale est un mot qui signifie flûte en turc. Et donc dans toute la partie asiatique de la Turquie, qui est énorme, le cavale est très important.
Et il y a aussi tout un paysage plus cosmique, on va dire, plus général du cavale, qui l'associe au cosmos, qui l'associe aux étoiles, qui l'associe aux puissances de la nature qui dépasse le berger, dans lequel il est en même temps tout à fait concrètement associé, et le rapport entre l'humain, l'animal, le profane et le sacré. Le cavale est une espèce de... Il traverse les frontières, en fait. Il aide le berger à comprendre le langage des animaux.
Alors, moi, j'ai eu une formation académique de flûtiste traversière. Donc, je faisais beaucoup d'orchestre, beaucoup d'enseignement, beaucoup de concerts, musique de chambre, beaucoup de musique contemporaine. J'adorais vraiment tout ce que je faisais, sans savoir qu'il y avait une autre flûte qui m'attendait quelque part, mais que je ne connaissais pas, que j'ai entendue sur un 33 tours parce que j'empruntais beaucoup de disques à la médiathèque pour découvrir d'autres musiques, d'autres flûtes, et j'ai entendu un cavale. Et là, j'ai eu vraiment un coup de foudre sur le timbre, le son de cet instrument, parce qu'il avait beaucoup de matière, beaucoup de présence, de chaleur. Je sentais vraiment qu'il y avait la part du bois qui me manquait dans la traversière, quelque chose de très charnel dans le son, une recherche de, pas de pureté, mais de matière dans le son. Donc là, à partir de là, je me suis mise en quête de rencontrer cette flûte et de la travailler, et de l'apprendre auprès des musiciens dans leur contexte. Donc j'ai beaucoup voyagé, beaucoup fait d'allers-retours pour finir par délaisser complètement la flûte traversière au profit de cet instrument, délaisser aussi les répertoires que je travaillais avec la flûte classique. Et maintenant, depuis une quinzaine d'années, je rassemble tous ces répertoires parce que pour moi, ils ne s'opposent pas. Il a fallu un moment que je les oppose, mais maintenant je sais qu'ils ne s'opposent pas, ils sont complémentaires. Moi, j'avais appris vraiment de façon exclusivement avec les partitions pour jouer la flûte traversière. Et là, maintenant, quand j'ai appris totalement oralement. Donc c'était une rupture totale, qui n'est pas indispensable. Je pense qu'à ce moment-là, je pensais qu'elle était indispensable. Mais en fait, les deux cultures, orale et écrite, sont complémentaires. On peut très bien se passer de l'une comme de l'autre. Mais quand on peut avoir la chance d'avoir les deux, ben c'est bien de les faire s'amplifier mutuellement.
Tu aimes bien faire se rencontrer ces deux univers-là, plus traditionnels et plus classiques, entre guillemets. Comment est-ce qu'on entame cette démarche-là de rencontre musicale pour un instrument ?
Pour moi, c'est vital en fait, de faire ces allers-retours, ces croisements. Ce que m'a appris justement l'oblique de la flûte, c'est que finalement, puisqu'on souffle droit quand on souffle dans une flûte traversière, c'est très concret en fait, dans une flûte oblique, on souffle droit, donc on doit être très centré sur son centre de gravité. On ne doit jamais l'oublier, on souffle droit, mais c'est la flûte qui est oblique. Et en fait, c'est un peu une image de, pour se connaître soi-même, la nécessité d'aller vers l'autre est primordial en fait, parce que c'est en allant vers l'autre, l'autre culture, l'autre, l'altérité, quoi, qu'on comprend mieux qui on est. Donc en fait, pour moi, c'est indispensable de faire ça. Je ne dis pas que c'est indispensable forcément pour tout le monde, mais pour moi, c'était indispensable de faire ce chemin vers une autre culture pour comprendre plus la mienne, pour en voir tous les avantages en fait, les qualités plutôt. Pour voir toutes les qualités de la culture que j'avais, il fallait que je m'en éloigne, que je tourne le dos, et pour pouvoir la voir mieux après, et la voir en complément aussi d'une autre. C'est pas du tout singulier, ma démarche. Beaucoup de musiciens font ça. Peut-être ce qui est plus singulier dans ma démarche, c'est du point de vue du style, c'est d'avoir cherché dans le son lui-même, plutôt que dans les répertoires, même si les répertoires sont très importants. Mais moi, c'est en creusant le son à l'intérieur de lui-même que je fais les plus grandes recherches, en fait. C'est une espèce de spéléologie sonore dans le son, peut-être plus que dans les répertoires. Jouer de la flûte, mais en fait c'est la flûte qui joue de moi d'une certaine façon, et tout ce rapport à l'animalité que je cherche dans l'instrument, ce côté sauvage que j'aime dans l'instrument et que je cherche, j'ai l'impression que c'est comme si la flûte me faisait retrouver quelque chose d'animal et de sauvage à l'intérieur de moi, et c'est ça qui m'intéresse.
De mon ami et qui est la brebis perdue.
Construire un atelier pour initier et puis pour construire, pour être soi-même facteur de flûte cavale, comment est-ce qu'on fait ça ?
Je crois qu'on part vraiment de l'essence même de l'instrument, qui est donc un tube vide, c'est-à-dire de la simplicité, le côté rudimentaire. Si on avait des tiges creuses dans l'herbe qu'on puisse couper, on le ferait. Là, on se sert de tubes de gaine électrique en PVC parce que c'est très pratique. Et à partir de ce matériau qui n'est pas noble du tout, à l'intérieur de ce tube, il vient canaliser notre souffle, qui est quand même notre bien le plus précieux, je pense. À partir de ce travail entre le côté très rudimentaire de cette gaine et le côté presque sacré de notre souffle, ben, il se crée des passerelles qui sont assez mystérieuses. Et quand je vois chacun qui est là, coupé, à chercher, à voir comment on fait naître un son, etc. Chacun y va à sa vitesse, avec sa façon. Je fais confiance à ça. Et après, il y a tout le temps que la personne consacrera ou pas à poursuivre cette espèce de début, quoi, d'histoire, d'aventure. Ça peut mener très loin.
Pendant le stage, nous avons bricolé, scié les tuyaux en PVC qui sont devenus nos futures flûtes,
donc tac, tac, tac. Ici, tu choisis un côté. Moi, je prends le côté qui est le plus propre. Et ben, j'attaque comme ça. Tu vois, pour
creuser les trous pour pouvoir avoir différentes hauteurs de notes. Et surtout, nous avons été initiés à cette nouvelle manière de souffler.
Peu importe si c'est pas fin.
Un exercice plus difficile qu'il n'y paraît.
Là, il faut chercher un peu. Et là, c'est... Tout arrive. Voilà. Là, on entend déjà de l'air qui est dans le tube.
Quelques-uns des stagiaires ont bien voulu répondre à nos questions.
Je m'appelle Anne. Voilà, ben moi j'ai découvert Isabelle l'année dernière à un concert et depuis je suis tombée complètement amoureuse. Alors pas d'Isabelle, enfin si, mais de la flûte cavale et de la façon de jouer d'Isabelle qui est extraordinaire. Et donc quand j'ai entendu parler de ce stage, j'avais envie de m'inscrire tout de suite. Je fais de la guitare depuis mes 15 ans pour m'accompagner au chant, bon, c'est assez classique. Mais j'ai laissé tout ça il y a déjà une vingtaine d'années. J'ai fait un peu d'accordéon, un peu de piano. Mais ça ne s'emmène pas en voyage. Si, mais enfin, quand même, la flûte, ça me paraît être vraiment l'outil indispensable, l'instrument indispensable pour partir en voyage.
La flûte, de manière générale, c'est un instrument qui t'intéressait depuis un moment, ou c'est vraiment cette découverte-là l'année dernière qui a enclenché ça?
J'avais encore cette image de la flûte à bec à l'école, une très mauvaise image de la flûte. Et c'est vraiment la rencontre l'année dernière qui m'a ouvert toutes les dimensions de la flûte. C'était complètement autre chose. C'est pas de la flûte, c'est autre chose. Ça nous emmène... Moi, ça m'emmène dans le cosmos, mais... Je pars vraiment dans les montagnes avec elle, vraiment avec les brebis. Pour moi, c'était une chamane, Isabelle. C'est vraiment, on est connecté à la terre, on est vraiment, c'est vraiment vivant. C'est un chant de l'âme, mais à travers un instrument.
Pierre, stagiaire hein, à l'atelier de fabrication et de découverte du caval. Donc, oui, moi, je suis flûtiste irlandais. Donc, je voulais quand même découvrir cette nouvelle façon de souffler dans un tube, sans siffler. Et je suis pas mécontent de l'expérience parce que ça bouleverse complètement l'apprentissage. Donc, il faut désapprendre et c'est une belle leçon de musique.
Isabelle Courbois, du coup, tu la connaissais déjà avant même de t'inscrire à l'atelier?
Son nom, oui, avec son projet, enfin un vieux projet qui s'appelait Zaman Fabrique. Et j'avais entendu son nom dans le milieu, quoi. Et effectivement, la rencontrer, c'est une sacrée musicienne.
On m'appelle Brigitte. On a toujours des attentes quand on va quelque part. Moi, c'était découvrir quelque chose que j'ignore en tant que danseuse. Je ne sais pas jouer d'instrument. Et donc, c'était vraiment un complément qui m'a vraiment apporté beaucoup.
Tu es danseuse, donc tu as quand même un rapport à la musique initialement déjà?
Oui, c'est par le corps, justement. C'est pas par le cerveau, c'est vraiment par le corps. La musique, elle va dans les oreilles et puis après, elle s'exprime dans le corps.
Mais si on se met là... Oui, mais
Ah oui, ça
c'est
bien.
Allez, on va
Et des ateliers comme celui-ci, tu en avais déjà fait auparavant ?
De fabrication, non. Des masterclass d'instruments, oui. Mais là, j'avoue que c'était voilà, on relie les deux. On part avec son instrument en plus. Donc, c'est vraiment, vraiment très chouette, quoi.
Moi, ça fait 3 ans que je viens au festival de Chaillol et je participe à chaque fois à un stage. Donc, les dernières fois, c'était des stages de chant. Là, je ne pouvais pas m'y rendre. Et quand j'ai vu ce stage de flûte, j'étais prête pour l'expérience.
Est-ce que tu viens de loin pour assister à cet atelier ? Est-ce que tu t'es déplacée de loin ?
D'assez loin. J'ai 3 minutes de marche. J'habite à 200 mètres.
J'ai profité de devoir travailler pendant un moment ici sur le champ de sort. Et quand j'ai vu cet atelier, je me suis dit, je vais m'arrêter à un moment donné. Je vais prendre ce temps-là. C'était indispensable.
Qu'est-ce qu'elle et il attendaient en s'inscrivant à cet atelier ?
Alors, je m'attendais à pas grand-chose parce que je n'ai même pas songé à ce qui allait se passer. Voilà, j'attendais de voir ce qui allait se passer.
Bah, c'est toujours de découvrir une expérience nouvelle. Hein. Là, espérer jouer d'un instrument en une journée, non, malheureusement. Mais bon, le matin, déjà, les premières sensations étaient très agréables, très positives et... Ça te manque à continuer, hein.
Ouais.
Ah oui.
Je voulais surtout écouter Isabelle jouer et voir comment est-ce qu'elle nous a présenté l'instrument. Parce que je connaissais un petit peu, étant amateur de musique traditionnelle du monde. Voilà, je voulais aller renommer et je voulais la rencontrer dans un cadre hyper privilégié à Chaillol.
Très privilégié aussi parce qu'on est très peu dans cet atelier.
Oui, on est très très peu, mais où sont les gens ? Quel dommage, c'est eux qui ratent. Hein. C'est eux qui ratent un bon moment avec une personne érudite et qui sait exactement de quoi elle parle et qui a une approche pédagogique hyper efficace, hyper sympathique et c'est une ambiance super cool.
Là, qui cherche à faire ça. Nous, dans le caval, on n'est pas du tout sur ça, on est sur tout ce côté du pull. Là. Vous pouvez faire ça ?
Revenons avec Isabelle. Qu'est-ce que tu préfères dans ces ateliers-là ? Qu'est-ce qui fait que tu continues à en faire ?
J'aime beaucoup transmettre ce plaisir que j'ai vécu moi-même à découvrir cet instrument, à découvrir le son, à me dire que finalement, s'approprier une fabrication, c'est quand même assez incroyable. Il y a peu d'instruments où on peut faire ça. On ne peut pas faire ça avec un violon alto, par exemple. On ne peut pas faire ça avec pas grand-chose comme instrument. Ça nous rend proche aussi de la voix, d'une certaine façon. Mais il y a ce petit tube qui est là et qui fait un intermédiaire. J'adore le moment où chacun cherche et puis il y a un premier son qui arrive. Ça, c'est merveilleux. Un petit peu de fabrique, un peu des outils, c'est pas très... Il n'y a rien de beau dans tout ça, dans tout ce qui est là comme outil, mais c'est très beau en fait, ce qui se passe. Donc pour moi, c'est une façon de transcender un peu le côté, bon là, cette scie, là, elle a rien de magique, mais en fait, elle est magique d'une certaine façon. Et chaque petit outil devient magique, donc ça m'enchante.
Dans ces flûtes obliques, il y a plein de modes de jeu. C'est impressionnant. Je pense que nous-mêmes, juste dans cet atelier, on n'a pas idée du monde si vaste qui s'étend. Quelle est la chose la plus difficile à transmettre pour toi, qui peut être peut-être même frustrant parfois dans la transmission ?
Alors, dans la transmission, c'est peut-être que l'expérience de chacun, c'est elle qui va faire tout, en fait. C'est-à-dire, quel temps chacun va donner ? Quelle place chacun et chacune va donner à l'ébauche de ce qu'on a fait là. Parfois, ça va tomber en poussière. Chacun peut s'emparer là de quelque chose qui est merveilleux, extrêmement puissant, mais aussi extrêmement fragile, parce que si il ou elle ne lui accorde pas de soins ou de temps ou d'attention ou de précision, ça va s'arrêter. Et c'est beau en même temps, parce que ça dépend de ce que chacun nourrit en fait. Ça me plaît en même temps, cette possibilité de rien en faire ou d'en faire quelque chose de magnifique.
Est-ce qu'il y a un détachement maintenant, depuis que tu fais ces ateliers, peut-être plus de détachement maintenant qu'avant, dans cette envie de transmettre et que les gens se saisissent de ce que tu leur proposes ?
Oui, peut-être, effectivement. J'aurais peut-être pas pu dire ça il y a quelques années, quand je faisais des stages où je voulais que tout le monde accroche et continuent et reviennent. Maintenant, je me rends bien compte que c'est illusoire, en fait. Les gens à qui, effectivement, ça va, ça va générer des choses incroyables, et puis d'autres, et puis c'est comme ça, c'est bien.
Et du côté de nos stagiaires, qu'est-ce qu'ils ont trouvé difficile ?
Le plus compliqué, le souffle dans l'instrument, vraiment la pratique. Et après, tout est génial, quoi. L'équipe est top, la formatrice est top, on est bien, il fait bon, on mange bien, tout est au vert, quoi.
À recommander s'il y en a un autre l'année prochaine.
Mais à recommander, il faut absolument qu'elle revienne et il faut qu'il y ait du monde qui vienne également. C'est indispensable, en fait.
Bah, peut-être que le plus difficile, c'est à venir. Hein. Parce qu'il va falloir s'y mettre. Hein. Mais ce qui était vraiment très agréable, c'est d'avoir cette possibilité de découvrir quelque chose. Et puis dans un cadre absolument magnifique, on participe soi-même, on crée son propre instrument. Ça apporte beaucoup, très positif et je suis très contente. On a des potentiels, voilà, qui demandent qu'à sortir Et là, c'est une fenêtre qui s'est ouverte, supplémentaire.
Je ne suis pas du tout manuelle. Je me suis dit, oh là là, faire une flûte, c'est catastrophique, je ne vais pas y arriver. Et en fait, j'ai été surprise par la facilité de faire un instrument pareil, qui sonne comme ça, aussi bien. Donc voilà, je suis très contente de repartir avec déjà la version mini pour m'entraîner et la vraie flûte. Non, c'est vraiment super. Une belle expérience.
Pour terminer, pour nos auditeurs et auditrices qui écoutent ce reportage, qu'est-ce que tu aurais envie de leur conseiller pour qu'ils découvrent cet instrument ?
Pour découvrir l'instrument, je vais faire un peu d'autoproclamation. J'ai fait un site qui s'appelle caval.org où évidemment il y a beaucoup de choses sur mon propre travail, mais pas seulement, il y a beaucoup de d'informations sur les familles des flûtes obliques, les cavales, beaucoup de choses à écouter, beaucoup d'explications, beaucoup de photos. Enfin, il y a pas mal de choses à apprendre là. Et puis, il y a toute une discographie aussi. Alors là, il y a la mienne, bien sûr, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'informations qui sont intéressantes.
Merci à toute l'équipe du festival d'avoir organisé ce stage. Merci à Isabelle.
Bravo, merci pour toutes ces possibilités qui nous sont données.
Merci Isabelle. À l'année prochaine.
Et vous l'accrochez. Et puis quand l'oncle vient, qui est un cousin catholien, il sort et il joue.